Résonance sur Radio B. Alain Goudard, bienvenue à tous. Donner la parole et valoriser la parole de chacun. Partager des réflexions, des connaissances, des expérimentations artistiques, la création, l'inventivité. C'est le rendez-vous que vous propose Résonance. Au sommaire de cette émission, le point de vue de Fabienne Brugère et de Guillaume Leblanc, philosophe, qui évoque dans un ouvrage paru aux éditions Flammarion, la fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile. Puis nous découvrirons le magnifique travail musical de Lionel Roland avec sa guitare à 8 cordes et qui nous invite à vivre tout d'abord à travers un spectacle, Vélo Soli, mais aussi par le biais d'un disque qui rassemble les musiques de ce spectacle, un disque produit par les Chemins Libres. Puis nous poursuivrons cette émission en écoutant ensemble une création radiophonique imaginée, réalisée par Lorenzo Carola, chanteur, poète, producteur de fiction radiophonique, directeur du Forum des compositeurs belges à Bruxelles. Voilà donc, chers auditeurs, le programme du jour que vous pourrez bien entendu écouter, réécouter à l'antenne et en podcast, sans modération. Thank you. Résonance sur Radio B. Et nous venons d'entendre un extrait d'une œuvre du compositeur argentin Martín Matalón, Le Scorpion, extrait de Del Color a la Materia, une œuvre pour 6 percussions, 2 pianos et dispositifs électroniques. Et les interprètes, un magnifique ensemble instrumental chez nos voisins suisses, l'ensemble Batita. Alors continuons notre émission, et notamment en compagnie de deux philosophes, Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. Tous deux nous conduisent à nous interroger sur la notion d'hospitalité, une question devenue cruciale aujourd'hui, et ils traitent cette problématique à travers un ouvrage intitulé « La fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile », paru aux éditions Flammarion en 2018. Qu'est-ce qu'ouvrir une porte et dire « Entrez, je vous en prie », souligne-t-il. Finalement, cet ouvrage nous confronte d'une manière très forte à une tendance de plus en plus présente dans nos sociétés, le refus de vivre ensemble. Alors écoutons Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc évoquer cette problématique. Reconnaître que l'hospitalité est un droit, comme nous le soutenons, en nous ancrant dans une tradition philosophique héritée des Lumières, revient à formuler des considérations juridiques sur un droit à la mobilité. C'est aussi défendre une éthique fondée sur le souci des autres. Il s'agit alors de poser la base d'une politique différente visant à prendre soin des demandeurs de refuge, avec l'idée que toute vie, par le fait qu'elle est un effort pour exister et expérimenter, est créatrice d'une allure qui mérite d'être soutenue. L'hospitalité est un risque, une épreuve existentielle, qui affirme le primat de l'ouverture sur la fermeture, de la main tendue sur la main refermée, mais qui porte en elle une possible transformation qui peut s'avérer perturbante ou dangereuse. Le risque de l'hospitalité ne peut alors être seulement individuel. Il doit reposer sur une solution collective et donc politique. Qu'est-ce qu'accueillir ? Est-ce seulement secourir ou est-ce donner aux individus accueillis la possibilité de se construire eux-mêmes avec des soutiens adéquats, eu égard à leurs désirs, leurs attentes et aux conditions d'accueil que nous pouvons leur fournir. Fin de citation. Nous éprouvons le sentiment de vivre ensemble à partir du moment où nous disons nous. Pour cela, écrit François Laplantine, philosophe, anthropologue, il convient d'interroger, dit-il, les modalités de cette inclusion du nous et de poser la question de son extension. Ce nous veut-il dire nous tous ou nous autres ? Vivre ensemble peut-il aller jusqu'à vivre tous ensemble ? Comment articuler le « nous » et le « tous » ? Ce sont là des interrogations particulièrement complexes, car elles concernent les relations entre l'un et le multiple, l'universalité et la singularité, le ressembler, le rassembler et le séparer. Thank you. Résonance sur Radio B et Lionel Roland qui nous emmène dans une danse, une joie aussi à travers donc cette pièce que nous venons d'entendre, donc deux pièces même, une plus courte. Nous avons débuté par Ritournelle, enchaînée avec Fausse fin. Voilà, on sent aussi l'humour aussi de Lionel Roland à travers cette musique et son magnifique jeu sur sa guitare à huit cordes. Des musiques qui sont nées et qui ont été travaillées entre 2015 et 2017. Alors ces musiques de Lionel Roland ont aussi donné lieu à un spectacle qui s'appelle Veli Soli, un spectacle porté par des artistes résidents dans l'Ain. Lionel Roland est accompagné de Nicolas Galliot également, qui a effectué la création lumière de ce spectacle, où l'on peut entendre également des textes issus des romans d'André Dautel, La route inconnue et La chronique fabuleuse, dit et enregistré par Thierry Cutel. Donc Veli Soli nous permet de mettre en lumière l'une des nombreuses et belles initiatives artistiques que l'on peut découvrir ici dans l'Ain. Précisons aussi que le présent disque a été mixé par notre metteur en onde préféré qui assure aujourd'hui la réalisation de toutes nos émissions. Je veux parler de Simon Deborne. Donc voilà un disque, un spectacle, un univers musical à vivre, à revivre, à écouter, à réécouter sans modération. Thank you. Résonance sur Radio B. Nous étions toujours en compagnie de Lionel Rolland avec cette pièce, Ritournelle Ribambelle, extrait du spectacle Vélo Soli, imaginé et porté par Lionel Rolland, interprété par Lionel Rolland avec sa guitare 8 cordes. Et peut-être justement quelques mots de Lionel Rolland lorsqu'il évoque son jeu justement avec sa guitare 8 cordes. Et il dit ceci, mais la 8 cordes n'est pas une mandoline. Il m'a fallu trouver des doigtés avec des écarts et des sauts parfois assez improbables à réaliser. Mais c'est une aventure, un peu comme à vélo, avant de s'attaquer à un col dont on ne connaît ni la pente ni la durée. C'est bien tout l'intérêt, ne pas savoir si l'on va y arriver, tout en étant convaincu que c'est bien ce qu'il faut faire. Voilà de quoi nous amener aussi à réfléchir, puis surtout avoir envie de découvrir un petit peu plus tout l'univers poétique et musical de Lionel Rolland. Celui-ci, il nous conduit bien évidemment encore à d'autres modes de création, et j'évoquais dans le sommaire de notre émission que celle-ci donnerait une large part à une création radiophonique. Comme vous le savez, cette émission souhaite et se veut être un lieu d'accueil, une chambre d'écho pour les ateliers de création radiophonique. La création radiophonique reste un art fragile qu'il est important de soutenir, de consolider, afin d'assurer sa diversité, sa pérennité pour l'avenir. Donc Résonance porte un regard attentif et prospectif sur la création afin de vous faire découvrir un monde sonore que l'on ne prend plus guère le temps d'écouter et de partager au plus grand nombre. Reportages, documentaires, créations d'ambiance expérimentales et d'univers sonores, feuilletons, fictions, séries, la création radiophonique nous offre tout cela et bien plus encore. Alors aujourd'hui, je vous propose de vivre ensemble une fiction radiophonique intitulée « Olimo ou les scrutateurs de désert », imaginée et réalisée par Lorenzo Carola. Alors juste avant de découvrir ensemble et de vivre cette fiction radiophonique, quelques éléments pour situer le travail de Lorenzo Carola et de situer aussi également l'homme. Ce qu'on peut dire de Lorenzo Carola, c'est que c'est le chant qui, tout d'abord, est l'entrée prioritaire dans son travail de création, son rapport peut-être au texte, son rapport à la musique, et qui anime bien sûr son quotidien. C'est un ténor lyrique qui, depuis longtemps, s'est mis à cultiver cette voix lyrique. Et on peut même remonter jusqu'aux années 1988 où là, il obtient les premiers prix en chant, concert et chant opéra au Conservatoire Royal de Mons dans la classe de Loretta Clini. Et puis aussi, il a étudié au Conservatoire de Maastricht dans la classe de Maya Besseling où il a reçu le diplôme supérieur et le diplôme d'art lyrique en 1994. Ensuite, bien sûr, il continue sa carrière de chanteur. Il fait partie notamment de l'opéra studio de la Monnaie en 1995 et 96 pour la production en tournée de l'opéra Così fan tutte. Lorenzo Carola a reçu également le Grand Prix de musique contemporaine et prix de la Mélodie française au concours international de Clermont-Ferrand en France en 1991. Enfin, pour donner encore quelques facettes de son parcours, il a été demi-finaliste du concours Reine Elisabeth de Belgique en 1992 et lauréat du concours international de Setúbal au Portugal en 1993. Il a aussi, de fait, par son souci de s'intéresser à la création, créé aussi des œuvres et enregistré des œuvres contemporaines de plusieurs compositeurs belges. Et puis, parallèlement à cette carrière de chanteur, Lorenzo Carola est depuis plusieurs années le directeur du Forum des compositeurs belges à Bruxelles, structure qui accompagne les compositeurs et soutient la création musicale. Enfin, il est aussi poète et s'aventure dans la création radiophonique. C'est en 2008 que Lorenzo Carola a écrit, produit et réalisé la fiction radiophonique que nous allons vivre ensemble, Olimo ou les scrutateurs du désert. Cette création, a reçu l'aide de la communauté française de Belgique. Et puis, petit à petit, elle a commencé de voyager, notamment grâce à une diffusion sur la première RTBF et par le biais de la publication, puisque celle-ci a été publiée par les éditions Lanceman. Alors, que va raconter justement cette création radiophonique de Lorenzo Carola intitulée « Olimo ou les scrutateurs de désert ». Imaginez une ville en plein désert qui est assiégée par un bruit d'origine inconnue, menace ou illusion collective. Après un âpre débat, les autorités décident d'envoyer 3 éclaireurs. En suivant toujours le bruit dans la même direction, ces scrutateurs devenus des vieillards reviendront à leur point de départ.
C'est bon, on va vous la raconter encore une fois. Mais arrêtez !
Vous, les enfants, vous aimez qu'on vous raconte toujours la même histoire. Vous vous fatiguez jamais ?
Enfin, ça tombe bien, nous n'en avons qu'une à raconter.
Mais après, vous dites qu'on radote, qu'on est des vieux fous. Et puis quand même, vous voulez qu'on recommence. Nous sommes tellement fatigués.
C'est vrai, nous étions déjà vieux quand nous sommes arrivés ici. Maintenant, je ne sais plus vraiment l'âge que j'ai.
Moi non plus, mais ça doit être vraiment très vieux.
Ça n'a plus aucune importance. Nous n'avons plus aucune importance. Mais notre histoire, c'est tout ce qu'il nous reste. Et puis...
Allez, dépêchez-vous!
Sinon, vous allez mourir comme l'autre, là, avant la fin.
Bon, ça va, je commence. Chut! Et vous, arrêtez de nous taquiner. À notre âge. Au début, il y avait le bruit. Et on ne savait pas d'où ça venait, mais il fallait trouver. C'est dans les champs que ça a commencé. On travaillait toujours dur, le dos courbé du matin au soir. Puis, quelqu'un a remarqué le bruit.
On a eu peur que ça nous tombe dessus, qu'on allait être attaqué. Ça n'était plus arrivé depuis longtemps, bien avant notre naissance.
Nous sommes restés enfermés derrière les murs de la ville, attendant l'arrivée des hordes ennemies. Mais l'horizon n'apportait rien de nouveau. On n'entendait que ce bruit incessant, comme une enclume, peut-être même un tambour. Et s'il s'était cantonné là-bas, derrière les collines ?
Personne ne fermait l'œil. Après plusieurs semaines, nous étions tous exaspérés et affamés. Finalement, au bout d'une séance orageuse, le cercle des sages a été forcé de prendre une décision.
Messieurs, je vous prie, calmez-vous. Un peu de silence, de l'ordre. De l'ordre. La parole est au grand conseiller. La faction adverse est priée de le laisser répondre. Sans un peu de calme, le débat ne pourra se poursuivre. Veuille le grand conseiller reprendre la parole.
Je vous remercie, monsieur l'officier des séances. Éminent membre du conseil, estimé collègue du forum de la ville d'Olimo, en une telle période de crise, enquêter et discuter pour savoir à qui attribuer la responsabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons ne me paraît pas digne de cette assemblée.
Messieurs, je vous en prie, le grand conseiller a la parole.
L'histoire jugera ceux qui, pour créer le désordre et imposer ensuite un pouvoir totalement en contradiction avec nos lois sacrées et progressistes, n'hésitent pas à faire appel à des puissances étrangères. L'assemblée doit rester solidaire et protéger l'intérêt général de la population. Le progrès ne sera entravé par aucune volonté aveugle de modifier les fondements de notre civilisation au moyen de dangereuses innovations. Le progrès n'a besoin d'aucune nouveauté, seulement du respect des traditions et de la paix que notre peuple a toujours su imposer à ceux qui, de gré ou de force, se sont trouvés sur son glorieux chemin.
Nous remercions le grand conseiller. Messieurs les délégués, vous êtes priés de garder le calme. La parole aux délégués pour les territoires hors les murs à l'ouest du fleuve.
Chers collègues, éminents membres du Conseil, en tant que représentant des colonies au-delà du fleuve, je sais très bien que mes administrés se trouvent en première ligne chaque fois que des forces contraires à l'avancée de notre civilisation viennent s'opposer à nos progrès de paix. Et c'est à juste titre. On pourrait me traiter d'ingrat si je ne remarquais pas la diligence dont fait preuve le Conseil pour essayer d'enrayer toute possibilité d'invasion en allant au-devant de l'ennemi, en le surprenant, disons, avant même qu'il ne se soit manifesté comme ennemi. Tant de clairvoyance ne peut être qu'applaudie.
Je prie l'éminent délégué d'en venir au fait. Le temps presse.
Bien sûr, monsieur l'officier, je vais me dépêcher, mais vraiment, le temps presse. Pourquoi toujours agir comme des bêtes traquées? De cette manière, les sages sont toujours les otages inquiets du trop tôt ou du trop tard. Pour nous libérer de cet impossible choix, il est utile de prendre en considération une troisième solution, en regardant au-delà de l'horizon tout proche.
C'est la pure couardise. Celui qui n'a jamais gouverné ne peut savoir que la paix de nos territoires doit être conquise au prix fort. Nous sommes bien informés sur les villes prétentions de l'ennemi. Nous connaissons ses armes, ses ruses. Nous en avons eu la preuve par le passé. Et cette fois, nous ne serons pas pris au dépourvu.
Évidemment! Mais de cette façon, le passé inonde le présent de ses eaux troubles et l'empoisonne. Ce prix que vous fixez, ce n'est pas vous qui allez le payer. Vous enveloppez tout cela dans les brumes de quelques mythologies du sacrifice pour justifier le troc d'une population contre une cause plus grande, un objectif soi-disant supérieur, un expédient quasi religieux pour glorifier l'horreur, la vaine intolérance du vide.
Mais de quoi parlez-vous? Vous savez très bien qu'il est contraire aux lois sacrées de ne pas imposer notre connaissance des destins supérieurs à ceux qui ignorent qu'ils vivent dans l'erreur. Ce serait une impardonnable manifestation d'égoïsme.
La parole à l'éminent cultivateur des parts célestes. Les délégués sont priés de garder le silence. Le cultivateur a droit d'interruption.
Je ne saurais comment vous exprimer la douleur que j'éprouve. Dans un débat aussi déchirant, il me semble que le forum s'enlise dans ses habituelles dangereuses divisions. La paix et le progrès ne se conquièrent pas en cédant à la peur. Il existe des voies plus sûres pour affronter chaque problème. Des voies qui nous ont été indiquées par celui qui nous observe dans notre banale insignifiance. Si ceux qui viennent vers nous ne montrent pas clairement un profond désir d'embrasser nos lois, il est de notre devoir de défendre celles-ci, même au prix de les outrager. Il vaut mieux porter atteinte aux lois que risquer leur destruction. Dans ce débat, il me semble que chacun cède à la fièvre qui le pousse à laisser quelques traces dans l'histoire. Je vous supplie de revenir à la raison. Il ne s'agit point d'un jeu, mais de la sauvegarde de ce qui nous a été confié par des instances supérieures. Notre civilisation.
Messieurs, le temps imparti pour les débats est arrivé à échéance. Passons au vote de la proposition d'action de la faction neutre qui suggère d'envoyer une expédition d'exploration. Dans ce but, le cercle des sages devrait désigner trois éléments sains et robustes, mais aussi dotés de qualités diplomatiques. Ces dignes représentants du peuple devront être surestimés par l'ennemi, en suscitant de la crainte par leur prestance physique et du respect par leur qualité spirituelle. Nous allons courir le risque de sacrifier trois membres appartenant au plus haut lignage. Le choix se justifie par la volonté de mettre à l'épreuve trois futurs dirigeants et donner définitivement à ce statut une dimension héroïque.
L'expédition, c'était nous trois, évidemment. Enfin, avec celui qui est mort. Tu parles de héros.
Nous avons été instruits avec une rapidité et une efficacité extraordinaires par les maîtres les plus habiles et équipés de manière à être prêts à toute éventualité. Devant les murs de la ville, la sortie de l'expédition a donné lieu à une petite cérémonie de la part du Cercle des Sages. Bien qu'un peu hâtive, elle a été considérée de tous comme un événement mémorable.
Tu exagères. Ils ne pensaient qu'à une chose, c'est de retourner derrière les murailles. Ils étaient morts de peur. Et nous aussi.
Toute la population, massée avec anxiété derrière les murs, nous a suivis du regard alors que nous traversions l'immense étendue qui sépare la ville de la première colline. Nous étions comme suspendus dans le vide, au milieu de la plaine, entre un peuple inquiet et un danger probable. Jusqu'à ce que le passage prudent de la colline nous ouvrit l'horizon sur une horde de cailloux.
Afin d'éviter de signaler notre présence à l'ennemi, les experts de la ville avaient trouvé un stratagème ingénieux. Les résultats de la reconnaissance étaient communiqués à la ville par des symboles tracés à flanc de colline, avec des cailloux de couleur.
La réponse du cercle a été immédiate. Nous devions poursuivre jusqu'à la prochaine colline, à quelques jours de marche. Tandis que la ville allait envoyer une seconde expédition, mieux fournie et plus aguerrie, au poste où nous étions.
À l'évidence, le cercle avait conclu que le bruit pouvant être entendu de si loin, il était probable que les rangs des envahisseurs étaient plus consistants que prévu.
Notre angoisse était au comble lorsque nous avons franchi la deuxième colline. Mais le résultat fut le même. L'origine du bruit s'était déplacée beaucoup plus loin, derrière une chaîne de montagnes.
Nous avons communiqué nos résultats à la seconde expédition, qui à son tour devait en informer la ville en utilisant la même technique.
Le cercle des sages décida alors d'envoyer une partie de l'armée au premier avant-poste, tandis que les deux autres expéditions allaient progresser jusqu'à des postes plus éloignés. Nous avions désormais la certitude de l'imminence d'un affrontement terrible.
Alors que nous escaladions avec difficulté une immense montagne, nous imaginions l'impatience et la nervosité qui se répandaient au sein du cercle des sages. Ses compétences étaient mises à rude épreuve par l'ennemi invisible.
Et quel dut être leur désarroi lorsqu'au risque de nos vies, nous leur avons communiqué en caractères gigantesques sur une paroi abrupte que derrière la montagne s'étendait une vaste plaine, au-delà de laquelle on entrevoyait à peine un groupe de collines et que le bruit semblait provenir du néant. Mais toujours de la même direction.
Nous ne comprenions pas comment ils arrivaient à se déplacer aussi vite.
Oui, mais il pouvait aussi s'agir d'une ruse pour dégarnir les rangs de l'armée protégeant la ville. Le cercle nous fit savoir qu'il allait rappeler nos soldats à l'intérieur des murs, en laissant deux garnisons aux premières rangées des collines. De plus, comme prévu par les mesures de sécurité exceptionnelles, des garnisons ont été dépêchées dans toutes les directions pour former un double rideau de protection.
Il devait y avoir certainement beaucoup d'hésitation au sein du cercle. Et on se demandait, comme d'habitude, pourquoi ils n'avaient pas pris plus tôt ces précautions. Les représentants allaient tenter de savoir à qui attribuer la responsabilité d'une telle faute, ce qui allait entraîner des changements considérables dans l'administration de la ville. Des têtes allaient tomber. Ça nous faisait rire d'imaginer leurs disputes de là où nous étions.
Nous avons dû attendre que le dispositif de défense soit mis en place pour recevoir de nouveaux ordres. Au sommet de cette montagne, nous nous sentions encore forts de l'importance de notre mission. De là, nous pouvions entrevoir les contours de la ville. Et lorsque nous nous tournions de l'autre côté, vers le bruit, nous ressentions un mélange d'excitation et de peur. C'est pourquoi nous avons repris avec enthousiasme notre marche. Lorsque les ordres sont arrivés sous forme d'un unique symbole qui signifiait « continuer ».
C'est la dernière fois que nous avons communiqué avec la ville. Pour le reste, un long chemin sur lequel nous avons vieilli.
Au début du voyage, nous avons souvent vérifié si un infime changement d'intensité indiquait que le bruit s'était rapproché. Mais l'origine du bruit semblait se déplacer à la même vitesse que nous. Avec la prudence des chasseurs, nous nous sommes penchés sur les sommets, au bord des précipices, dans l'attente anxieuse d'une découverte terrible ou merveilleuse. Combien de montagnes nous ont paru insurmontables, interdites? Et pourtant, toutes ont fini par céder leur immensité à nos pas insignifiants.
Mais peu à peu, la tension a fait place à la déception. La déception à l'habitude. Et l'habitude au total oubli de la raison de ce voyage. Pendant un nombre incalculable d'années, nous nous sommes traînés sur ces terres en refaisant automatiquement les gestes quotidiens qui nous permettaient de poursuivre la route. Les paroles se sont faites rares, jusqu'à s'épuiser, et nous avons limité au strict nécessaire la recherche de nourriture, disponible sans trop de peine sous les rochers ou au pied des arbres.
Nous avons marché tous les trois tête baissée, avec une obstination aveugle. On avait toujours faim et toujours soif. Puis un jour, c'est moi qui remarquai que le bruit était différent. Nous nous étions arrêtés pour boire.
Moi, j'étais déjà un peu dur de la feuille.
Le bruit, il est plus près. Vous voyez ça? On dirait qu'ils n'ont rien entendu. Nous sommes réduits comme des bêtes à laper l'eau sous les roches, à voler les baies aux rats et les œufs aux serpents. Écoutez ! Je n'ai pas osé vous en parler tout de suite, mais ça fait quelques jours que ma conscience se réveille petit à petit. Et ça fait mal ! J'ai la tête qui tourne. Ça suffit ! Je n'ai plus aucun doute. Je m'assieds là et j'attends que vous vous réveilliez. Et si je suis devenu fou, autant que vous soyez au courant. C'est sûr, je resterai toujours le moins vieux. Ces choses-là ne changent pas. Vous êtes devenu sourd, c'est ça ?
Alors, tu viens ?
Cette voix ensablée, ça fait combien d'années ? Qui êtes-vous ? Et moi, vous vous souvenez ? Ça fait combien de temps que je ne vous ai plus regardé en face tous les deux ? Tout rabougri, séché, sans expression. C'est sans doute mieux. Un sourire pourrait vous effriter le visage. Le bruit s'est rapproché. Vous ne comprenez pas?
Lève-toi, on continue.
Avance, s'il te plaît.
Dans cet univers fossile, l'intelligence a la lenteur des pierres. Vous avez oublié, voilà ce que c'est. Vous êtes trop vieux.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de manger.
ce sont les rations d'une semaine. Tu veux nous voir mourir?
Nous allons être en retard.
Mais quel retard?
Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe?
Le bruit. Il s'est rapproché. Vous entendez? Pas seulement le volume, mais la substance a changé. En plus de ce battement sourd, maintenant on distingue comme des fibres. Écoutez, on entend aussi une sorte de frottement, avec de temps en temps de douloureuses pointes aiguës dans les intervalles. Qu'est-ce qu'on attend? Aidez-moi à me relever. Vous n'êtes pas obligé de me tenir la main. Je m'en sors tout seul. Et puis, non, redonnez-moi vos mains. On aura plus de force. C'est notre dernier effort. Allons, pour Olimo.
Pour Olimo.
Tenez-vous droit.
Je n'y arrive pas.
Rappelez-vous que nous devons avoir belle allure.
J'ai mal au dos.
Au nom de
la vie.
Au nom de...
Nous sommes ici présents au nom de la vie d'Olimo.
Disposition, passivité.
La bienvenue au nouveau invité et nous assurer de notre qualité d'ambassadeur.
Nous sommes glorieux peuple
et la visite du sol de notre territoire sont compensés par l'intelligence et la subtilité de notre glorieux peuple au dépourvu ni dominé par des forces de jaloux. De nos pourtant modestes avoirs durement acquis et la sueur de nos soins, mais aussi fouillés.
Mais aussi aux fois,
mais en faute que des mains célestes qui ont confié à notre peuple
la charge essentielle
de rendre céleste le corps sur lequel nos glorieux peuples fut déposé par une époque immémoriale pour y éclore comme une fleur.
Petite fleur des plaines.
De la ville, un grand cratère.
10, 20, 30 dalles, 5, un nombre incalculable d'ânes tirent à grand-peine sur des cordes.
Âne, grand-peine, cordes.
Pauvre bête.
Les cordes font tourner une gigantesque roue en bois, avec des soubresauts.
Moi aussi, j'avais un âne, quand j'étais petit.
Du cratère partent d'autres cordes, reliées par des poulies et des roues plus petites à une grande roue.
Poulie à la grande roue.
Je ne lui ai jamais donné de coup de bâton.
À intervalles réguliers sortent du cratère, pendus à l'une des cordes, de grands récipients remplis de cailloux.
Récipients pleins de cailloux. Et... de boue. Il y a aussi de la boue.
Je ne me souviens pas de son nom.
Des hommes manœuvrent ces récipients et en versent le contenu dans de gros chariots qui, traînés par d'autres ânes, se dirigent vers l'extérieur de la ville.
Vers... Je crois qu'ils vont vers l'ouest.
Qui sait s'il est encore vivant?
Les sons plus aigus semblent provenir de l'intérieur du cratère. Comment?
Comment?
Mais non, il n'est pas vivant. Je ne sais même pas si moi je suis vivant.
Comme si la terre hurlait de douleur parce qu'on y arrache les viscères.
Bon, ça, je l'écris pas. Eux, ils aiment les informations concrètes.
Il s'appelait Victor.
Qu'est-ce que tu dis?
Quel Victor?
Mon âme.
Il y a des enfants là-bas.
Tout a rouillé. Je parviens plus à leur monter.
Mais tu les as vus. Qu'est-ce que tu veux faire? Utiliser des armes contre des enfants rachitiques vêtus de haillons?
Contre eux, pas. Mais peut-être plus loin.
Mais s'il est encore vivant à mon retour, je ne le vais plus travailler.
Allons-y sans armes. S'il faut se défendre, je doute qu'on y arrive.
Trois mesures d'avoine. L'été, toute la journée au soleil. Et l'hiver à l'intérieur.
Il se dirige vers nous.
Je pourrais trouver une compagne pour Victor.
Bonjour les enfants.
Bonjour.
Salut les clodos. Qu'est-ce qu'il pue?
C'est fort possible. Mais vous parlez notre langue?
Pourtant, avec un drôle d'accent.
Connaissez-vous quelqu'un qui vendrait une ânesse?
Je vous en prie, ne nous jetez pas de cailloux.
Doucement. Nous sommes ici pour une importante mission.
Nous avons besoin d'une ânesse.
Il y a une femme là-bas.
Bonjour, madame.
Ça suffit, les enfants. Laissez ces cochères en paix.
En vérité, nous aimerions parler aux autorités de cette ville. Nous sommes porteurs d'un message important.
Nous sommes des ambassadeurs.
Quoi? Asseyez-vous là. C'est la salle d'attente. Je vais vous apporter un peu de soupe.
Madame, nous n'avons pas le temps pour la soupe, nous sommes pressés.
Ça suffit maintenant, les enfants. Vous savez pas qui nous sommes? Tu parles d'une salle d'attente.
Qu'est-ce qu'il fait? Il dort?
Qui? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Réveille-toi.
Il est mort.
Voilà, attention, elle est bien chaude.
Madame, nous n'avons plus de temps à perdre. C'est de la plus haute importance. Veuillez nous indiquer où se trouvent les autorités.
Il y a un homme là-bas, en haut de l'escalier, qui est en train de nettoyer ses lunettes. Il a l'air important.
Monsieur!
Il n'entend pas. Il nous fait signe de monter.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
C'est incroyable! Vous parlez notre langue et nous ne nous sommes jamais rencontrés!
Probablement pas, ou je m'en souviens pas! Je suis pas physionomiste!
Mais cette dame ici dehors...
Elle... C'est ma mère! Elle est sourde!
Je comprends!
Quoi?
J'ai dit je comprends!
Bon, qu'est-ce que vous voulez?
Nous venons d'une autre ville, très loin d'ici. Nous voudrions parler aux autorités.
Nous sommes porteurs d'un message très important. Nous avons entendu ce bruit et...
Ah! Peut-être avons-nous réveillé ces messieurs.
Qu'est-ce que c'est?
Une mine. Je suis le directeur et l'un des rares qui soit resté ici.
Et les autres?
Ils sont partis vers l'est. Il paraît qu'il y a de beaux endroits là-bas. Vous devriez aller voir.
Une mine de quoi?
Je peux pas vous le dire. Si vous êtes de la concurrence... Comment s'appelle votre ville?
Olimo.
Je comprends pas.
Olimo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas?
Vous vous moquez de moi? Écoutez, vous savez où aller? Ma mère vous donnera de la soupe, j'ai du travail! Vous les mendiants, vous ne savez vraiment plus quoi inventer! Allez, tenez!
C'est malin!
la soupe est froide maintenant. Tant pis pour vous. Quand vous aurez fini, vous allez me débarrasser de l'autre, là. Voyez, les enfants ont déjà commencé à jouer avec son corps. Ça va sentir mauvais. Ça pue déjà. Et j'ai assez de travail comme ça. Les enfants, montrez-leur la fosse où jetez le corps. Oh, Limoges, je te jure. Si c'était pas pour mon fils, il y a bien longtemps que je serais parti d'ici. Et je ne veux rien entendre.
C'était Olimo ou Les Scrutateurs de désert, une fiction radiophonique de Lorenzo Carola. Pietro Pizzuti, Angelo Bison et John Dobrynin étaient respectivement les premiers, deuxième et troisième scrutateurs. Pierre Laroche, le grand conseiller, Jacques Neefs, le délégué, René Hainaut, l'éminent cultivateur des parts célestes, Benoît Van Dortslaar était l'ingénieur, Éric Gobin, l'officier des séances, Stéphane Aubergen, une vieille, Max Pérez, un gamin, Ava Dobrynin, une gamine. L'extrait de l'adagio pour violoncelle seul de Gaston Compère est interprété par Jean-Paul Dessy. Enregistré dans les studios Acoustic Recordings par Jarek Frankowski. Composition sonore et mixage, David Fortez. Une fiction écrite, produite et réalisée par Lorenzo Carola, avec l'aide de la communauté française de Belgique.
Résonance sur Radio B. J'espère que vous avez eu du plaisir à partager cette aventure dans le cadre de cette pièce radiophonique « Olimo ou les scrutateurs de désert » imaginée et écrite par Lorenzo Carola. En tout cas, chemin faisant, nous arrivons au terme de cette émission. Toute l'équipe de Résonance se remet au travail pour imaginer le contenu de notre prochain rendez-vous. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter, réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission à l'antenne et en podcast, sans modération, sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B. Thank you.